Mon but, c'est que tout le monde soit heureux d'aller sur une compétition et ne pas y aller en disant je suis obligé d'y aller.
Ça ne devient pas une contrainte ou une.
Alors, il est hors de question. Voilà, faut que c'est un plaisir parce qu'on ne se lève pas un dimanche matin à 6 heures pour aller quelque part où on n'a pas envie d'aller. Donc, il faut que ce soit un plaisir. Il faut qu'il y ait une ambiance sympathique. Il faut que, voilà, faut que les gens soient contents de se retrouver. Si on va en déplacement, il faut que les gens soient contents d'y aller ensemble.
Donc, il y a un côté très fédérateur, surtout.
Oui, il faut. En fait, il faut éviter les conflits. Enfin, c'est un peu comme le monde dans l'entreprise, mais avec des gens qui ne sont pas payés.
Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. On revient pour un nouvel épisode et vous pouvez voir quand même que nous sommes dans un décor assez particulier, mais surtout nous sommes accompagnés de Jean-Noël Beignet. Salut.
Bonjour, enchanté.
Bonjour à vous deux.
Salut Jérôme. Et bien évidemment, vous avez compris, parce que là on n'est pas trois, on est cinq. Nous avons effectivement la frige olympique avec nous. Alors on va vous montrer. Voilà, gros nounours à côté de nous, mais également, bien évidemment, qui dit olympique, dit également la frige para. Et voilà. Donc nous sommes plutôt bien accompagnés, effectivement. Alors vous allez comprendre, bien évidemment, pourquoi nous sommes avec justement les friges et aussi avec Jean-Noël. On peut t'appeler JN, Jean-Noël ? On va continuer avec Jean-Noël.
Aucun problème.
On va continuer avec Jean-Noël.
Et donc, on est ici dans les locaux donc, du CDOS, le Comité départemental olympique et sportif, c'est ça ?
De Paris.
De Paris, oui, évidemment. Et donc, on va aborder avec toi deux casquettes différentes que tu as dans l'athlétisme. Donc, tu es président du Comité donc, de Paris d'athlétisme.
Exactement, voilà.
On va en parler après. Et tu es également, on va dire, bénévole sur tous les grands événements athlés un peu depuis très très longtemps. Donc, voilà.
Et juge, et enfin, il y a plein de choses, quoi.
Oh, multicasquette également, nous, on adore justement quand le parcours est riche. Alors, à savoir quand même, c'est que les lieux, on est quand même plutôt dans un beau cadre, parce qu'on a quand même la Tour Eiffel qui est à côté, la Seine, parce que du coup, vous êtes situé quand même...
Donc, c'est Quai Jacques Chirac.
Voilà, exactement.
C'est les nouveaux locaux du CDOS. En face, il y a la Seine, il y a le stade Émile-Antoine derrière et la Tour Eiffel juste à côté.
Voilà.
Qui est le plus beau stade de Paris, vu qu'il a la vue sur la Tour Eiffel.
Et du coup, est-ce qu'il y aura des épreuves olympiques près d'ici ou...
Eh bien, il y a le triathlon qui est dans la Seine, mais je pense que c'est en face.
D'accord.
Parce que je ne sais pas s'ils vont aller à droite ou à gauche, mais okay. En tout cas, la Seine est juste là.
D'accord.
Et à la Tour Eiffel, il y a du...
Beach
volley.
D'accord.
Exactement.
Exact.
Je ne savais pas.
Okay. Exact.
Ok. Donc la question un petit peu rituelle, c'est de demander toi comment tu as découvert l'athlétisme et à quel âge et pourquoi tu t'es lancé dans ce sport en fait. En quelques mots, en résumé.
D'accord. Eh bien, j'avais
tu as 30
11 ans. J'avais 11 ans et je ne voulais pas faire de foot comme tout le monde.
Ah.
Un rebelle.
Et donc il a fallu faire un sport parce qu'il fallait quand même s'oxygéner. Et donc à Issy-sur-Eure, il y avait un club d'athlétisme et j'ai commencé comme ça. Et ensuite quand je suis allé au lycée, j'ai changé de club et j'ai continué. Le niveau était pas mal, donc en fait, j'ai continué. Et un jour, j'ai dû arrêter à cause de l'âge. Et puis voilà. Hein.
Comment ça a arrêté à cause de l'âge ?
À 28 ans, t'arrêtes
28
de...
ans ?
Oui, je crois que j'avais 28 ans, quelque chose comme ça. Et on arrête de faire du sprint à...
Ah oui, d'accord.
Ah, oui, oui.
Oui, oui, du sprint.
Tu
après, on peut faire autre chose.
Ouais, ouais. D'accord.
Mais quand on fait du sprint à un certain âge, on se blesse facilement, quoi.
C'est vrai. Et il ne faut pas oublier quand même qu'effectivement, dans l'athlétisme, il y a quand même énormément de disciplines
oui,
à l'intérieur. Parce que
c'est quand même,
on va dire, l'un des sports les plus riches dans ces disciplines. Enfin, beaucoup en tout cas de...
Ou même le plus riche, je pense.
Je pense d'ailleurs le plus riche, effectivement. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Mais malgré tout, donc certes, tu as peut-être arrêté le sprint à 28 ans.
Mm.
Mais tu es toujours baigné, en fait, dans l'athlé. Donc
ouais.
En fait, juste après, tu as transformé. Tu t'es dit, bon, comme je ne peux plus peut-être aller courir de cette manière, je vais aller travailler dans le domaine.
Alors, travailler, non, au début, j'étais... Alors, le cheminement était un petit peu différent parce que donc, j'ai arrêté de faire de l'athlétisme en tant que sprint.
Voilà, sprinter.
Longueur, enfin voilà. Ouais. Toutes les épreuves qui sont un petit peu difficiles. Et je me suis mis à faire du running, qui est un petit peu plus... Alors, honnêtement, on peut ne pas aimer du tout parce que...
Oui, je confirme.
Voilà. Courir, c'est pas non plus...
Sandra n'est pas fun.
Non.
Mais je me suis mis à faire du running et donc je suis allé dans un club de running et c'est là où j'ai commencé à faire bénévole, à faire dirigeant.
Ah donc t'as pas été bénévole du coup avant ?
Non.
Ah d'accord. Okay.
J'étais, enfin on est toujours un petit peu bénévole parce qu'on aide toujours un petit peu.
Dans
mais,
le club.
Mais j'étais pas bénévole sur des week-ends entiers. Ou, voilà, c'est arrivé petit à petit. En fait, quand on tombe dedans, après on a du mal à revenir un peu en arrière. C'est okay. difficile.
Surtout qu'en plus, c'est vraiment des bons moments quand on est sur les événements, que ce soit en tant que bénévole ou même, oui. Salarié. Hein, c'est toujours très festif, très oui. sympa. Et puis, on a toutes les valeurs du sport qui rapprochent énormément. Donc, c'est sûr que je peux comprendre que ce soit plaisant.
Bah, y a des gens qui font ça tous les week-ends. Hein.
C'est vrai.
Lien souvent avec la mairie de Paris, par exemple, il y a des clubs de supporters ou de clubs de bénévoles, pardon.
D'accord.
Ils font tous les grands événements. Et là, c'est indépendant de la fédération. Ils ont toutes les infos par la mairie et ils s'inscrivent sur des événements. Ça peut être du rugby, ça peut être du
squash.
Il y a des gens qui font ça
Paris,
tous
ça
les week-ends.
C'est Paris. C'est là.
Tous les week-ends,
il y a tellement d'événements.
Je pense qu'il n'y a pas que Paris. Il faut juste aller se renseigner. Il y a peut-être moins de possibilités, bien évidemment, dans les autres villes. Paris, c'est sûr qu'on a énormément de choses. Mais en tout cas, le sport est dans tout l'Hexagone.
Enfin, tous les dimanches matin, il y a un 10 km. Quoi.
Oui.
Moi, je ne le vois pas beaucoup, celui-là.
Je voulais démarrer par le côté un petit peu dirigeant. Donc, tu es maintenant président du comité de Paris d'athlétisme.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Est-ce que tu avais déjà un rôle de président dans un club avant ou non?
Eh bien, quand j'étais bénévole, donc dans mon premier club de running, oui. 100% running,
ouais.
Donc j'étais au conseil d'administration, ouais. J'ai fait secrétaire,
D'accord.
J'ai organisé des compétitions et ensuite je suis devenu président de ce club.
Voilà, c'est un peu le cheminement logique.
Voilà, ouais. C'est...
Ouais. Excusez-nous, monsieur le président.
D'ailleurs, on m'appelle toujours Monsieur le Président.
Oh
non, je rigole. Et donc, je...
Moi, Président.
Et donc, je suis devenu président, pas par la force des choses, mais je crois que je suis resté 5 ou 6 ans au CA. Les 3 premières années, j'ai fait dans le secrétaire, j'ai fait pas mal de choses. Et puis, les 2 dernières années, j'étais président du club. Et donc, là, j'assistais aux assemblées générales de la ligue,
du comité.
Enfin, j'assistais, voilà, ouais. je participais à des compétitions, mais en spectateur, quoi.
Ouais.
Et je voyais bien que c'était intéressant. Donc, le jour où on est venu me chercher pour intégrer comité.
Pardon ? Tu devais être bon, du coup.
Non, parce que j'étais intéressé. Vous voyez que j'étais intéressé.
Souvent, c'est important.
Voilà. Oui, parce qu'on voit les gens qui sont un peu curieux.
Oui.
Oui, et puis même ceux qui sont aussi très actifs dans le.
Voilà.
Parce que bon.
Et en plus,
t'es
jeune.
Il y en a qui le sont moins, il y en a qui le sont plus, qui dédient un peu plus de leur temps aussi.
Et j'étais pas retraité. C'est ça.
Ça change.
Et en fait, en général, quand on fait ça, en général, c'est qu'on est retraité.
Oui.
C'est qu'on a plus de temps.
Oui, 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 dans toutes les
institutions.
Donc
voilà, c'est souvent ça.
Et donc t'es rentré du coup au CD.
Voilà, je suis rentré comme ça. La première année, en fait, c'était l'Olympiade précédente. Parce que là, on est en Olympiade 2020-2024.
Oui.
Donc, j'ai dû rentrer en 2019 au comité.
À quel poste, du coup
J'étais trésorier adjoint, mais je n'ai absolument pas fait de trésorerie du tout.
D'accord.
C'est marrant, ce poste-là, il est souvent comme ça.
Je comprends pas.
Non, mais malgré tout, tu as quand même gravi les échelons, parce que tu es quand même passé... avant, tu n'as pas pris la présidence de suite. Tu es vraiment passé par les... secrétaire, comme tu disais, etc.
Oui. De toute façon, c'est impossible de faire président. Oui. Non, c'est impossible.
Exactement. Donc, il y a quand même un cheminement pour arriver jusque-là et pour que tu puisses aussi après.
Donc, si je ne me trompe pas, tu as pris la présidence donc, de ce CD de Paris en 2020. Donc,
exactement.
Pendant le Covid, du coup.
C'était juste à. C'était pendant le Covid.
Ouais, ouais.
Enfin, c'était. Non, j'ai l'impression que c'était avant, mais oui.
Ça paraît tellement loin. Il y a eu 3 mois. Il y a eu 2 mois et demi avant.
Ouais, non, c'était octobre 2020.
Donc c'est pendant le Covid, du coup.
Pendant la deuxième sortie, du coup, peut-être. Parce que du coup, à un moment, on a quand même été libéré de chez nous.
Oui. En fait, j'ai du mal à me souvenir de l'Assemblée Générale, parce que j'étais en grand stress ce jour-là, quand même.
Mais elles sont souvent en fin d'année, les assemblées, quand même.
Voilà, c'est après les JO.
Du coup, juste
Là, il n'y avait pas les JO, mais c'est après les JO.
Juste pour clarifier un peu les choses, le président sortant, du coup, démissionnait, ou comment ça marchait?
Non, il changeait de poste. Il démissionnait de fait, mais il passait à la fédération.
Ah,
ok.
Donc,
du coup, poste
laissé la place.
Ok. Future step aussi pour toi, non?
Aucune idée.
Et donc, tu as pris.
Il est retraité.
Encore un peu de temps, là.
Il a plus de temps.
C'est
donc,
vrai.
T'as accepté le poste, on va dire, sans réfléchir, ou c'était évident pour toi ou...
Non, c'était un défi.
Ouais.
C'était un gros défi. Je trouvais ça très intéressant. Donc, il y avait plein d'enjeux. Et en plus, c'était l'Olympiade des JO de Paris.
Ah bah évidemment.
Donc, c'est le meilleur moment.
La 4e année allait se terminer par l'événement majeur du sport en France.
Qui est Paris 2024.
Et en plus, l'athlétisme, c'est quand même le sport majeur des JO. Donc, on peut le dire quand même.
On le dit, mais après, dans les faits...
Oui.
Du moins original, allez.
On dit sport le numéro 1, mais il n'est pas considéré comme le sport numéro 1 parce qu'il est quand même un peu
maltraité.
Pas
sur les médailles, en tout cas.
Non, mais je dis, c'est le sport.
Oui, ça, c'est vrai.
Non, pas sur les médailles, pardon, ce qu'on l'a fait avant. C'est l'escrime. Oui. C'est l'escrime. Oui, non, désolé, il y a l'escrime.
C'est le sport original des JO, on va dire.
Oui, oui.
Voilà, merci. Parce qu'il faut préciser.
Non, oui, bien sûr, bien sûr.
On va faire du mal à d'autres sports, sinon.
Oui, bien sûr.
Ils sont tous très méritants, malgré tout, ceux qui participent.
Donc, défi perso.
C'est un gros défi, ouais.
Petit bilan, là, après maintenant presque 4 ans, ça se passe bien, ça va, cette présidence?
Ah oui, bien sûr. Ben, il a fallu s'adapter. La première année, toujours un peu compliquée parce qu'on apprend plein de nouvelles choses. On est dans un nouveau milieu qu'on ne maîtrise pas forcément. Et donc, je pense que la première année, c'est pour se tester. Et à partir de la deuxième année, on réutilise tout ce qu'on a appris l'année précédente et on recycle en améliorant ce qu'on a appris l'année précédente. Et logiquement, la quatrième année, on est les meilleurs. Mais...
Oui, après, il faudrait peut-être un mandat de plus pour faire passer les décisions ou faire passer quelques projets, effectivement, parce que ça passe vite, en tout cas.
C'est passé très vite.
Surtout, effectivement, ouais. Comme c'est chez nous. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est plus rapide du fait qu'on sait que c'est à Paris 2024. Mmh. Donc, il y a une grosse mobilisation et c'est sûr que, donc, du coup, le temps, on le voit moins. Et Covid, bien évidemment.
Oui, ça nous a cassé quand même pas mal le rythme. Au niveau licence, c'était très compliqué.
On est à combien de licences?
Alors, on est à... Faut pas que je dise de bêtises.
On a dit 4600 tout à l'heure. Donc...
4600.
En les 5000.
Et on était à 5000 en 2019 et on n'a pas re-atteint les 2019.
Alors, juste pour donner un peu le cadre aux gens, donc l'athlète...
Il manque 600 personnes, s'il vous plaît. Donc, allez-vous, prenez votre licence.
L'athlète, c'est donc 300 000 licenciés en France?
Oui, un petit peu plus que 300 000.
Ligue de Paris, tu m'as dit 52 000.
Oui.
Et donc, le comité de Paris, c'est donc 4600.
Il manque 400 personnes.
Voilà, 400 personnes qui n'ont pas repris. Alors après, ça a un petit peu changé, la structure a un petit peu changé. On a plus de licences, des masters, on a plus de masters qu'avant. Il y a moins de jeunes, de tout jeunes. Mais par contre, oui, comme il y a eu un regain de running pendant le Covid, il y a eu pas mal de gens qui se sont mis à courir. Il y en a qui ont pris goût et qui se sont licenciés après. Donc la pyramide des âges a un petit peu changé.
D'accord.
Par contre, on est toujours à peu près dans les 50-50 entre les femmes et les hommes.
Ah, ben alors ça, c'est très bien.
Ouais.
Ça, c'est très bien.
Ça, on le met toujours en avant parce que c'est vrai. C'est naturel, en fait. On ne va pas s'amuser à faire de la promotion spéciale femmes. C'est naturellement.
Parce qu'en plus, c'est vraiment une chose sur laquelle d'autres sports actuellement. Enfin, tous les sports veulent tendre vers ça, en fait.
Voilà. Après, il y a des sports qui sont déjà plus propices, entre fait. Guillemets, parce que le running, par exemple, effectivement, il n'y a pas besoin de capacité particulière pour. Courir, enfin, les hommes et les femmes peuvent le faire de la même manière, entre guillemets. Donc...
Voilà, il y a des catégories d'âge comme les minimes, les très jeunes, c'est pareil, 50-50. Après, ça se creuse un peu, il y a plus de garçons que de filles vers les 16-18 ans.
Oui, je ne suis pas étonnée.
Et après, les filles reviennent plus tard en master.
Vers 25-30 ans.
Il y a quand même beaucoup plus de garçons en master. Hein. Sur le running, il y a quand même plus de garçons licenciés que de filles.
Moi, j'ai une question. Est-ce que ça aide d'être un sport qui est pratiqué beaucoup à l'école? Du coup, la passerelle se fait plus facilement du sport, de l'école au club.
Les liens sont quand même très distendus.
Ah ouais.
Et on a beau faire des efforts, c'est compliqué.
Parce que qui n'a pas eu l'athlète en sport scolaire?
Exactement.
Enfin, on essayait tous quand même de
lancer de javelot, lancer de disque, on l'a vu.
Mais même j'avais le saut, le saut en longueur aussi.
Non, mais il y a toujours
la course.
Il
y
a toujours ça. Il y a au bac toujours de l'athlétisme au bac, mais il n'y a pas énormément de liens entre les clubs et les écoles. C'est un souhait, mais en fait, il faut trouver des bénévoles pour aller dans les écoles. Déjà, on n'y rentre pas comme ça. Ouais. Et puis, il faut trouver des bénévoles disponibles pour aller dans les écoles. C'est pas non plus... Avec l'OCDOS de Paris, on fait souvent des événements dans les écoles. On fait du sprint. On parle de l'olympisme. Les personnes qui sont employées d'OCDOS parlent de l'olympisme. Nous, on s'occupe plutôt de la course dans la cour de l'école. Et à la fin, il y a une remise de diplôme. Mais c'est 2-3 fois dans l'année. On ne peut pas faire ça tout le temps.
Oui, non, je comprends que ce soit compliqué.
Ensuite, en termes de fonctionnement, qu'est-ce que ça fait un comité d'athlétisme de Paris? Ça fait quoi? Ça organise des compétitions, j'ai pas forcément.
Exactement. Alors, la
mais
base.
Quel type de compétition? Parce qu'il ne faut pas mélanger avec la fédération, avec tout ça, etc.
Alors, comme nous, on est un organe déconcentré de la fédération, on organise des compétitions, mais des compétitions particulièrement pour les jeunes. Donc, les EAPO, donc Éveil Athlétique, Poussin. Benjamin minime beaucoup plus, parce que là il y a beaucoup plus de compétitions, parce qu'il y en a qui sont obligatoires dans l'année, qui sont qualificatifs pour les LIFA, enfin pour la Ligue d'Île-de-France, et éventuellement pour des France plus tard. Il y a toutes les compétitions adultes aussi, donc ça a fait, je dirais, une bonne quinzaine de compétitions dans l'année. Et oui, une bonne quinzaine.
Et c'est quoi l'événement majeur?
Juste expliquer, parce que du coup, là, on a évoqué comité, ligue et fédération, juste pour...
Oui. Parce qu'en fait, c'est un peu les strates, on va dire.
Voilà, voilà. Exactement. Et je pense que pour beaucoup, peut-être qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement de toutes ces institutions qui sont, en tout cas, au cœur du sport en France, parce que quasiment, ils fonctionnent tous comme ça. On va pouvoir dire... Enfin, Jérôme, je sais que tu les connais bien, mais en tout cas, voilà, il y a le club, certes.
Oui.
Comité.
Donc, il y a le club, du coup. C'est la strate, on va dire, numéro 1.
C'est là où, en tout cas, les personnes sont licenciées véritablement dans un club. Enfin,
le comité départemental, donc là, on est plus ou moins ici.
Exactement. Ouais.
Ensuite, on a la Ligue, donc l'IFA pour l'athlète.
Oui, enfin, l'IFA, c'est l'Île-de-France. Oui, pour Paris. Oui. Ouais.
Pour Paris.
Il y a 8 départements dans la LIFA.
Voilà.
Et après, donc, la fédération.
Voilà. Exactement. Donc, en fait, c'est aussi les strates, les compétitions, par exemple, du comité, ou après les compétitions des ligues où on rassemble de plus en plus de personnes, c'est pour monter après sur les plus grandes manifestations qui deviennent, dans ces cas-là, effectivement, des nationales. C'est-à-dire que les comités, hop, les ligues récupèrent, hop, entre ligues et ensuite, enfin, interligues et ensuite.
Et du coup, si on parle d'affiliation, donc tu m'as dit qu'il y avait une quarantaine de clubs affiliés à ton comité.
Un petit peu plus, oui, 44, 45 selon les années.
Ensuite, donc, les comités, eux, sont affiliés à la Ligue.
Exactement. Voilà. Enfin, ouais, et la Fédération. Ouais. Voilà. Nous, on a un organe déconcentré de la Fédé.
C'est important de le préciser.
On a un cahier des charges. On a telle compétition organisée, telle autre. On a des droits et des devoirs. Okay. Quand on s'engage, par exemple, à être président du comité, on a des devoirs dans les statuts, en fait.
Oui.
On prend les statuts et... Voilà, ça on le sait, c'est la base. Ouais. Après, on rajoute tout ce qu'on veut. On fait des choses en plus.
Tout à fait. Et il ne faut pas oublier que la fédération, en tant que telle, ou la ligue, a également des objectifs sur les comités. Ça va dans les deux sens.
Exactement.
Aussi.
Eux, ils ont des objectifs par rapport au ministère.
Exactement.
Et ils nous en répercutent certains vers nous.
Et donc, voilà. Tu parlais de devoirs, mais est-ce que toi, tu as un petit peu amené ta patte? Est-ce que tu as des projets personnels que tu as essayé de mettre en place?
Personnel ou pour...
Non, mais...
Oui, il n'y a rien de personnel, parce qu'en fait, tout doit être voté.
Évidemment, t'es pas seul.
Non, on n'est pas seul.
Quels sont les objectifs?
En général, un président, une vision.
Voilà, c'est ça. Il faut avoir une vision, il faut avoir des objectifs sur 4 ans.
Tout à fait.
Une Olympiade. En fait, il faut au moins 2 ans pour déjà amener brique par
brique. À la validation déjà.
Voilà, la validation, ça prend déjà... Parce que nous, on a une réunion tous les 2 mois. D'accord. Donc déjà, il faut avoir... Pendant 2 mois, on accumule tout ce qu'on veut dire. Et puis le jour J, on dit « Ah, on veut faire ça ».
En fait, question autrement, c'est juste que les gens, ils diraient quoi de toi en tant que président? Qu'est-ce que t'as amené? Enfin, c'est quoi ta vision des choses?
Alors, moi, vu que dans mon club d'avant, qui était un club très convivial, mon but, c'est que tout le monde soit heureux d'aller sur une compétition et ne pas y aller en disant « Je suis obligé d'y aller ».
Ça ne devienne pas une contrainte
Faut que c'est un plaisir, parce qu'on ne se lève pas un dimanche matin à 6 heures pour aller quelque part où on n'a pas envie d'aller. Donc il faut que ce soit un plaisir, il faut qu'il y ait une ambiance sympathique, il faut que les gens soient contents de se retrouver. Si on va en déplacement, il faut que les gens soient contents d'y aller ensemble.
Donc il y a un côté très fédérateur, surtout.
Oui, il faut éviter les conflits. Enfin, c'est un peu comme le monde dans l'entreprise, mais avec des gens qui ne sont pas payés.
Voilà.
Et ça, c'est vraiment le point important, effectivement.
Ouais.
C'est pas la même chose quand on est confronté, même des bénévoles, des personnes qui font les choses sans être rémunérés.
D'ailleurs, tout ce que je vis là actuellement, ça sert aussi pour le monde de l'entreprise, parce que l'un se répercute sur l'autre. Donc tout c'est utile dans les deux sens. Donc.
Et donc, on va basculer un peu sur le deuxième volet de ce podcast, c'est bénévole sur les grands événements athlétisme.
Oui.
Alors ça a commencé quand pour toi? Ça, c'est quand ton premier événement?
Alors, le premier événement, je crois que j'étais bénévole, enfin au niveau national, entre guillemets. Hein. L'Équidène de Paris en 2018 ou en 2019. En tout cas, pour ce qui concerne la fédération.
Hein. Oui, enfin les grosses.
Après, j'ai fait d'autres choses, moi, perso, quand j'étais président de club. On organisait des compétitions, on organisait Paris 2018, où là, il y avait 10 000 personnes. Enfin, c'était vraiment des gros événements.
Non, on va plus que ces événements nationaux.
Nationaux.
Enfin, gros événements.
Donc, l'Équidène, c'est le premier. Hein,
Alors, l'Équidène, voilà, bénévole. En 2018, 2017, 2018, j'ai quand même travaillé pour beaucoup de... Enfin, travaillé. en bénévolat. C'était du travail. Pour des compétitions d'athlétisme, pour 5 jours d'athlé, pour 10 km, un 5 km, un marathon, tout ça avec quelques amis. On a organisé ces compétitions-là. Et donc là, c'est là où j'ai vraiment découvert
comment ça se passait.
Voilà, le travail caché.
Tout ce qui était fourni derrière. Donc, voilà. C'est-à-dire que quand tu as fait ces événements, donc forcément, tu ne les courais pas.
Eh bien, je devais, mais c'était impossible.
Voilà, exactement. Non, parce que c'est
une question du coup.
Non, mais c'est à préciser quand même que les bénévoles, c'est quand même des personnes qui sont très passionnées par leur sport en général, qui se proposent effectivement du côté bénévolat, mais ils ne peuvent pas profiter de la manière sportive, en tout cas, de ces événements. Mais c'est plus, donc du coup, à l'intérieur, ouais. C'est de, justement que tout se passe bien, etc. Quelles étaient véritablement tes missions, justement, sur ces... Sur ces courses que tu as eues, qu'est-ce que tu as eu à gérer? Est-ce que l'organisation, elle se fait en amont?
En mais tout, tout se fait en amont. Sur place, en permanence, on est sollicité. En fait, on devient directeur de réunion, directeur de compétition, entre guillemets. Et en permanence, on est sollicité pour. Il manque ça à tel endroit, il y a 10 minutes de retard, comment on fait pour rattraper? Enfin, c'est.
Il est au monde de ça.
Voilà, j'ai perdu mon dossard, il faut réimprimer un. Bah oui, il faut un dossard. C'est en permanence, ça ne s'arrête jamais de 7h à 19h.
Exactement,
ça
et ça c'est tout ce que les personnes ne voient pas en général. On
le voit
pas. Participent ouais. À ces... Et ouais. En plus, parce que du coup, il y a aussi le côté où les bénévoles doivent quand même... En fait, tout doit être beau de l'extérieur, comme on dit.
Faut pas que ça se voit.
Exactement. Mais en fait, il y a un travail qui est énormément fourni. Bah, alors après, parce que du coup, moi, j'ai été du côté organisation aussi à un moment, mais il y a un énorme travail qui est fourni. Et c'est pour ça que nous, on a eu envie, en fait, de mettre aussi justement les bénévoles en avant sur le podcast, parce que le travail, il est énorme. C'est sur son temps libre. C'est quelque chose. Et ils sont sollicités. Et les pauvres, ils se font gronder de temps en temps parce qu'il y en a qui sont pas contents.
Ah oui, mais parfois, parfois c'est terrible.
Hein. Exactement. Et donc voilà, donc c'est important quand même.
Je pense à un truc, tu sais, sur les courses, des fois, il y a des bénévoles qui font des temps calibrés, des chronos pour un peu des leaders, quoi. Tu l'as fait ou pas?
Non, j'ai jamais fait. Mais ça se fait sur toutes les courses maintenant.
C'est-à-dire?
En fait, il y a un coureur, donc d'un bon niveau, on lui dit, tu fais tel temps.
Ouais.
Ah.
Et donc il a un ballon,
il fait un temps calibré
pour des gens en fait qui le suivent,
okay.
Pour qu'ils le suivent, voilà.
Et pour les Jeux Olympiques, pour tous, enfin pour le marathon pour tous, il y aura ça.
Ça a un nom, c'est ce rôle-là, c'est quoi le nom déjà?
Je le sais, je l'ai oublié, voilà,
ouais,
pareil.
On vous le mettra effectivement.
Il y a un nom qui a été déposé par.
En plus,
c'est vrai.
Ouais, il y a une association qui a déposé des noms, donc il ne faut pas donner ce nom-là.
D'accord.
Que j'ai oublié d'ailleurs.
Ouais.
Mais voilà, c'est pas Timer, mais c'est effectivement.
Parce que c'est
ils
des
ont
personnes
une
de référence.
Dos, voilà.
C'est des personnes de référence sur le.
En général, c'est des personnes qui sont très fortes.
Oui, bah oui.
Oui, j'imagine.
Et ils savent courir moins vite.
Enfin, moi, ils peuvent mettre un.
En fait, arriver à un certain niveau en athlète, les gens, tu leur dis, tu cours à tel kilométrage.
Voilà.
Ils vont le faire.
Voilà.
Mais donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là non plus pour une perf personnelle alors?
Ah non, ce jour-là, ils ne peuvent pas. On leur dit 45 minutes, mais si tu cours en 45 minutes imposé, ça veut dire que tu cours en 35 minutes.
Oui, oui. Ouais.
Faut juste
y a pas
regarder
un
bien ça.
Quand même pour la personne?
Ah bah si.
Qui accepte de faire ça alors?
Bon, c'est pour rendre service.
Oui,
non, bien sûr, c'est pour rendre
service. En général, en cadeau, elle a un t-shirt. Donc,
super.
Voilà.
Donc tu parlais de l'Equidem, donc qui est, je crois,
un
marathon en équipe.
Oui,
c'est
un marathon en équipe, et celui-là il est organisé par la Fédération française d'athlétisme en novembre.
D'accord.
Donc la première fois où j'étais bénévole, c'était pour ça. Et après, une fois qu'on est élu, une fois que j'étais élu au comité, là on a tous les événements majeurs de France.
Bon, meeting de Paris, j'imagine. Forcément.
Meeting de Paris qui a lieu donc à Paris. Ouais.
Ah bon?
Oui. Meeting de Paris qui est le plus gros meeting. Enfin, en tout cas, l'extérieur. Le meeting d'été, il est le plus gros de France, je pense.
Celui-là, c'est à Charletti, ça?
C'est à Charletti.
Ouais, oui.
Alors, au niveau classement, je ne sais pas. Mais après, il y a Monaco, tout ça. Mais voilà, je ne sais pas quel est le classement officiel. Ces deux dernières années, le meeting de Paris était incroyable.
En tout cas, on en entend mal parler.
Ah oui, et donc, tu as été bénévole les deux fois à chaque fois?
Là, les quatre fois, j'étais bénévole. Enfin, les trois fois, parce que 2024 n'a pas encore eu lieu.
Oui.
Donc, j'étais bénévole à chaque fois. Et nous, en fait, on a une mission à Paris. C'est on gère un groupe de bénévoles. Donc, en général, l'été, il y a 54 bénévoles qui viennent des clubs parisiens. Et on gère, par exemple, les porteurs de panier pour les athlètes. Les porteurs, on ne les voit pas. C'est dans les coulisses. Et c'est des enfants. Donc nous, on gère, je crois qu'il y en a 24, on gère les porteurs de haies et on gère aussi ceux qui mettent en place les starting blocks au départ.
Ok.
Quand ça passe du 100 mètres au 400 mètres, il faut les déplacer. Et là, c'est des bénévoles du comité de Paris. Après, il y a des juges.
En plus, il y a quand même des, un cahier des charges, je suppose. On les met pas, on les met pas n'importe où.
Ah non, non, c'est tout est calibré.
Voilà, calibré, millimétré, bien évidemment. On est quand même à l'athlète.
Millimétré.
C'est sûr qu'on en parlait auparavant. L'athlète, c'est quand même un sport particulier parce qu'il y a tellement de disciplines. Il y a, donc tout ce travail vraiment qui est énorme dans les coulisses. Quoi.
Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans les coulisses.
Ouais.
On en voit un peu à la télé.
Oui.
Ceux qu'on voit à la télé, souvent, ils sont habillés d'une façon identique. Ouais. Tout le monde est habillé pareil. Et dans les coulisses, il y a beaucoup de monde qui passe de droite à gauche. Voilà.
Ah,
et quand il y a le meeting de Bercy, les coulisses, c'est que des couloirs. Et là, c'est impressionnant, ça fourmille dans les
ça
couloirs.
Ça court partout.
Ça de droite à gauche. Et sur la piste, en fait, on voit que les athlètes et les juges. Et bah, tous les autres sont cachés.
Mais c'est pour ça, c'est toutes ces personnes de l'ombre, c'est important. Et sans toutes ces personnes, très sincèrement, il n'y aurait pas les événements qu'on a aujourd'hui, ou en tout cas, ça ne se passerait pas aussi
exactement.
Bien qu'on les a. Parce qu'on a quand même beaucoup de chance en général. On voit que c'est beau, on voit que c'est bien fait. On a envie d'y participer, mais c'est ce qui fait aussi que les personnes reviennent participer. Parce que l'organisation, elle est bonne, parce qu'ils sont bien amusés, parce qu'ils ils sont contents en fait, d'être là. Bon, après, les courses en hiver, ce n'est pas le top, mais voilà, quand il fait beau, c'est bien.
Il y en a qui ont un peu leur spécialité. Je veux tel poste, je l'aime bien, je veux le garder d'une année sur l'autre. C'est toujours un peu les mêmes personnes. Et puis voilà, de temps en temps, il faut un peu de renouvellement aussi. Donc,
Tout à fait. Et puis il y en a de plus en plus aussi peut-être qui veulent. C'est vrai que les bénévoles sont quand même beaucoup recherchés.
Les bénévoles
dans
sur
le sport,
les marathons.
Si vous voulez être bénévole, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, on en transmettra.
Tu parlais à l'instant d'un rôle important en athlète, c'est juge. On sait que c'est un
oui.
sport où il faut des juges.
Il faut des juges.
Et alors déjà, comment est-ce qu'on se forme à ça?
Ah, ça commence par la base, en fait, c'est juge départemental, enfin, c'est l'ancien nom juge départemental, qui est organisé par le comité. Donc nous, plusieurs fois dans l'année, le comité organise des sessions de formation des juges. Alors il peut y avoir des jeunes juges, ça se fait beaucoup en athlétisme depuis quelques années.
Quand on dit jeune juge
Benjamin, donc 11-12 ans.
Ok, très bien, ça commence tôt.
Oui, ça commence tôt.
Ça commence tôt.
Ah ouais.
Et ce qui est génial, c'est quand il y a quelqu'un de 11 ans qui tient tête à un athlète de 40 ans et qui lui dit non. Et il a raison. Et là, c'est vraiment, vraiment très, très drôle.
C'est bien parce que ça les responsabilise aussi.
Ah, mais totalement. Jeunes. L'autre jour, on en a vu un. Il était vraiment très, très bon. Et il devait avoir 12 ans. Et il a mis plein de zéros à des gens qui méritaient zéro.
Super, enfin, super. Pas pour eux,
et nous, on était là.
Bah, s'il les méritait, ma foi.
Ah oui, oui. Non, quand on lance le poids et qu'on décolle le poids de l'oreille, non, c'est zéro.
Bah oui, évidemment.
En fait, on est. Voilà,
parce qu'en fait, en athlète, dans quasiment chaque discipline, il y a une partie un peu juge, quoi.
Ah, mais il faut un juge dans toutes les disciplines.
Bah oui, ouais. Jérôme.
Même la course.
Oui, parce que même le 100 mètres, il y a un couloir, donc là, du coup.
Il y a des juges course pour le 100 mètres, en fait, pour regarder si la personne
a pas mangé.
A pas mordu sur la ligne.
A pas mordu.
Pas mangé.
Voilà.
Parce que j'ai faim.
T'as faim ouais.
Alors, sur le 100 mètres, on peut toucher la ligne, mais c'est rare quand on dévie. Mais non, il y a des juges
au 100
mètres.
Bon aussi,
et toi, tu l'es juge, du coup?
Alors oui, j'ai commencé par la base juge départemental. Après, je suis passé juge... moi, je préfère course. Donc au début, j'ai fait un peu tout, mais ma préférence, c'est quand même course. Donc j'ai bifurqué par là. Et donc actuellement, je suis juge
national.
Course. Alors non, régional.
Régional.
Ouais.
Ok. T'as jamais eu envie de... d'aller...
Alors, je suis en train de passer chef juge.
Ok. Chef
juge. J'ai la technique.
Oui.
Enfin, et il me manque la pratique. Parce que là, en hiver, pour faire valider la formation.
Oui, parce qu'effectivement, il y a la technique. Et après, on
voilà,
fait valider...
Il y a des QCM, on suit des formations. Donc maintenant, ça se fait beaucoup par visio. Ça a un peu changé. Le Covid a un peu révolutionné tout parce qu'il y a de plus en plus de visio. Et donc, ça facilite un peu les choses parce qu'on
ça
peut avoir...
Ça permet d'aller plus vite aussi.
Alors, ça va plus vite.
De former plus.
Et puis, quand on est dans une formation, il y a des gens de France entière. Il y a la Réunion, il y a la Guadeloupe en même temps que nous.
Ah, c'est bien ça.
Et alors qu'avant, il fallait donner rendez-vous dans un bureau à tel endroit. Et il y avait peut-être une formation par an. En Ile-de-France, par exemple, il y avait une formation de telle discipline. Alors que maintenant, en fait, il y en a plusieurs dans l'année et en visio. Ça facilite pas mal les choses.
Question
par
un contre, peu de profane. Est-ce qu'au très très haut niveau, un juge, il est payé ou pas pour... Ou c'est que bénévole?
Indemnisé.
Bonne question, je pense que non. Je pense que tu as le droit. Alors, nous, j'ai une jolie panoplie Adidas, parce que à chaque fois que. Alors, que tu sois juge ou. Oui, c'est sponsor de la fédération. Tu as des chaussures aussi, parfois, quand tu es juge sur certaines compétitions.
Bah, il y a l'outfit complet, normalement, des juges.
Mais genre, un juge au JO, il n'est même pas payé.
Pour les référencer.
Pull ou t-shirt, pantalon et chaussures. Quand tu es juge, mais dans des meetings. quand on organise une compétition au niveau départemental, il y a un sandwich.
C'est déjà pas mal. Mais au niveau départemental, c'est là où, donc, du coup, que, si tu passes chef juge, est-ce que donc du coup tu passerais région? Et après, il y a le côté national. Voilà. Où là, on est sur des championnats de France, on est sur des.
Tu peux, en fait, quand tu as un championnat de France, ils peuvent piocher dans la réserve de juges régionaux. Ça se fait. Hein.
Et est-ce que tu l'as déjà fait?
Alors, j'ai déjà fait. Alors, des championnats de France élite, non. J'ai déjà fait l'Open de France.
Alors, élite, c'est les.
Élite, c'est les 12 meilleurs français. Ouais. Voilà, c'est. Ou 18 meilleurs.
Le titre de champion de France. Voilà. Ou championne
de
France.
Il y a finalement très peu de monde parce qu'ils sélectionnent déjà les 18 meilleurs ou les 20 meilleurs, je ne sais pas. Donc ça limite déjà. Mais l'Open de France, qui est une compétition, c'est un championnat de France. L'année dernière, j'avais été sélectionné. Le gros moment de 2023, c'était les championnats du monde de para-athlétisme.
On va en parler après, je t'en vois.
Ah bon, vas-y. À Charletti.
Allez, on y va.
C'était à Charletti en août 2023. Et là, c'était des mondiaux. C'était un peu une répétition par rapport aux Jeux paralympiques de septembre, enfin de août-septembre 2024.
On appelle un peu un test event dans le
jargon. Voilà. Ils ne l'ont pas nommé comme ça parce que c'était vraiment un championnat du monde.
Donc, il y avait un titre à la fin.
Juste pour info, les mondiaux de para-athlètes, c'est la deuxième compétition paralympique au monde après les Jeux paralympiques.
Tout à fait.
Voilà. D'accord.
En termes de taille, voilà, c'est quand même un événement énorme.
D'accord, parce que c'était vraiment impressionnant. Alors, les tribunes n'étaient pas pleines, malheureusement.
Après, Charletti, il est...
C'est grand.
C'était grand.
C'est quoi la capacité ?
20 000.
20 000, voilà.
Ouais, c'était vraiment... toute la tribune principale était quand même pleine tous les jours. La Fédération Handisport avait fait aussi des belles choses. Ils avaient organisé des concerts avant la compétition. Donc ça attirait des gens, c'était des concerts gratuits. Les places n'étaient pas chères, donc en fait, les gens y venaient. C'était aussi les vacances, hein, c'était en plein mois d'août. Donc les gens venaient, ils écoutaient le concert, ils restaient pour la compétition. Certains ont tellement adoré qu'ils ont tout de suite acheté les places pour les JO paralympiques. Voilà, l'état d'esprit est différent, c'est plus ouvert, quoi. Enfin,
C'était quoi ta mission du coup sur ces mondiaux de para-athlétisme ?
Alors là, j'étais juge, alors pas sur la piste, j'étais au un centre d'information, ça s'appelle le TIC.
C'est pas le CIT,
le Centre d'Information Technique. C'est en anglais, et CIT en français. Center, ouais. Exactement. Ouais. Et donc ça, c'est caché. C'est là où vont tous les. C'est caché. C'est pas sur la piste. Oui. C'est à l'arrière des tribunes.
C'est
et exactement. C'est là où vont tous les chefs de délégation quand il y a une réclamation,
voilà.
Ou quand ils vont chercher leur courrier. C'est dans ce bâtiment-là. Nous, on était par 40 degrés sous une tente. C'était impressionnant, quoi. C'était le moment où il faisait vraiment très chaud à Paris.
Mais c'est un poste important.
C'est un poste important et... Enfin, important. C'était pas très dur. Hein. C'était... Techniquement, c'est pas très dur. Mais
pas dans ce sens-là.
C'était en anglais. Faut connaître les règles. Alors, les règles en para-athlé sont un peu différentes qu'en athlé. Donc, nous, on s'est adapté. On a suivi une petite formation avant.
J'imagine.
Pour pas faire d'erreur. Il y a des codes aussi, les T11 par exemple, c'est les personnes qui sont totalement malvoyantes. Qui sont malvoyantes, ceux qui ne sont pas 100%, on leur cache les yeux aussi. Enfin, il y a plein
de... des guides aussi, je crois. Ouais.
Il y a les guides, ouais. Pour les T11.
Ouais.
Enfin voilà, c'est des subtilités que nous, on ne maîtrisait pas et il a fallu apprendre. Tellement adoré que tout de suite, dès qu'on a eu les billets pour les paras, moi j'ai acheté des billets pour.
Parce que j'avais lu un de tes posts justement après où tu étais vraiment dithyrambique par rapport à cet événement.
T'as c'était impressionnant.
Ouais, franchement.
En fait, moi, j'y allais tous les jours,
ouais.
Parce que logiquement, les bénévoles, les juges, il y a un roulement, parce que comme il faisait 40 degrés, il y avait un roulement, mais moi, je m'étais arrangé pour pas faire de roulement. C'est juste que moi, je faisais pas comme les autres. Les autres, ils faisaient 7h, 21h. Moi, je faisais pas ça. Moi, j'arrivais plus tard et j'allais tous les jours. Parce que sinon, c'est pas gérable sur la semaine. Mais voilà.
Mais c'est pour ça que ce type d'événement aussi, c'est une très belle vitrine pour le parrain.
Oui.
Justement pour voir tout ça, parce que comme on le voit, hein, ça, y a, tu t'es enrichi de plein de choses que forcément c'est différent de l'athlée-athlée, athlée valide, on va dire. Et cet événement, effectivement, une belle vitrine pour notamment les jeux qui arrivent, et que c'est assez extraordinaire aussi ce que le para fait, en tout cas dans le sport. Et il ne faut jamais comparer, bien évidemment, les deux. On l'a déjà dit dans nos podcasts, le sport valide et para, c'est y a un gap au milieu, quoi.
Juste pour conclure là-dessus, apparemment, tu as remis une médaille aussi, je crois, lors des mondiaux de parathlon.
Oui, en fait, comme il y a plein de catégories, il y a besoin de plein de remettants.
Oui. Et on dit remettants, d'accord.
De remettants, de médailles. Oui. Parce qu'il y a la médaille et il y a aussi le petit nounours. Oui. Donc, en fait, à chaque fois, il fallait deux personnes. Et plus la semaine avançait, plus ils cherchaient des remettants qui soient élus.
Ah,
et on n'était pas non plus... parce que, en fait, c'est tellement... ça prend tellement de temps de faire juge ou élu ou enfin voilà au comité que finalement on s'est rarement conseillé de faire les deux parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc les gens qui étaient juges n'étaient pas forcément élus. Donc un juge ne peut pas remettre une médaille à quelqu'un.
Tout à fait.
Donc forcément. Ils cherchaient des élus et moi j'étais là.
Et t'as remis laquelle du coup ?
Alors j'ai remis deux médailles pour du javelot. Alors la catégorie je ne me souviens plus. Je crois dit T35, mais je crois que c'est ça. Donc, pour du javelot, voilà. Et j'ai remis des médailles à des personnes que j'avais déjà vues, parce que comme j'étais au centre d'information technique, ils venaient déposer leur matériel pour qu'il soit pesé, vérifié.
D'accord.
Donc, c'est des gens que j'avais eus face à face deux jours avant. Et j'étais très heureux de remettre la médaille.
Quelle couleur, la médaille ?
Or, argent et bronze. Ça marche toujours par trois.
Ouais. Ouais. Alors, oui. Mais...
Là, t'abuses quand même.
Sais ce qu'elle veut dire. Enfin, je pense.
Non, c'est parce que dans les disciplines dans lesquelles nous on a travaillé, effectivement, on avait des élus pour chacune des couleurs.
Non, là, il y a un élu qui remet les médailles.
Mais pas que la voile, même pour même dans le squash chevaux. C'est qu'en général, le bronze.
Tu as raison. Mais coule pas, elle a raison, c'est vrai.
Mais oui, Jérôme.
Elle a toujours raison.
C'est pas moi qui l'ai dit, mais voilà, il y a des personnes effectivement pour bien différencier. En général, c'est surtout qu'on fait dans beaucoup d'événements, on va dire, il y a un grade d'élu en fait.
Oui.
Et en général, régulièrement, ça peut être président qui remet justement l'or.
The best, mais non,
alors,
en fait,
peut-être pas forcément toujours le best, mais en tout cas, il y a une sorte de croissance en fait. Dans les
oui,
dans
là,
les
là en fait, il y avait un élu qui remettait les nounours. Donc la petite dotation à côté, c'était un nounours. Et l'autre élu remettait le... Ou élu ou une personnalité un peu connue aussi. Hein, ça
Peut-être de la mairie de Paris.
Il y avait la mairie de Paris, il y avait des athlètes connus, il y avait des sponsors
c'est un vrai
aussi.
Exactement, parce qu'il y a les sponsors aussi. Donc en fait, il y a vraiment, c'est les cérémonies, mais la préparation cérémoniale des événements,
c'est un boulot
parce qu'effectivement, on doit heurter personne. Il y a sur les événements énormément de sponsors, enfin on l'espère de plus en plus bien évidemment, des sponsors sur lesquels il faut faire attention. Les villes, effectivement, qui injectent de l'argent. Enfin, il y a énormément de choses. Donc c'est vrai que ces cérémonies, c'est pas juste j'ai personne, je vais aller remettre une médaille ou en tout cas je vais monter.
C'est un moyen aussi de remercier les personnes qui sont présentes.
Valoriser.
Et qui ont injecté soit du temps soit de l'argent dans ces championnats aussi.
Exactement.
Donc
d'où le fait que justement cette place que tu as eu à un moment de remettre donc du coup les trois,
c'était
pour toi
extrêmement stressant,
mais bien sûr
il fallait pas faire d'erreur.
Il faut pas se tromper.
Ah oui, si on
se trompe,
faut pas se tromper. Si on se trompe, c'est le buzz. Bad buzz.
Voilà. Et puis.
Après, ça tombe sur les réseaux et tout.
Après, moi, honnêtement, j'étais quand même dans. Il y a une petite salle d'attente au début où on est tous ensemble. Donc, j'ai parlé un petit peu avec les athlètes. Et je regardais aussi quel était leur handicap parce que je voulais pas non plus faire d'impair. Parce que quand on arrive avec la médaille et qu'après, on serre la main.
Oui.
Là,
s'il n'y a
plus,
pas de main, ça va être compliqué.
Exactement. Donc là, en fait, il y a les deux catégories où j'ai remis des médailles. Et il leur manquait un bras. Et je regardais lequel. Parce que si j'arrive
à...
Parce que j'ai déjà vu une vidéo de quelqu'un qui remet une médaille et qui tend la main et qu'il n'y a pas de main en face, c'était horrible.
D'accord.
Donc je ne voulais pas vivre ça et faire vivre ça à l'athlète. C'était hors de question.
Pour
un côté un peu plus souriant, j'allais te demander aussi après, dans ta carrière de bénévole sur les grands événements, est-ce que tu as une anecdote ou des souvenirs qui te marquent, des gens que tu as croisé, les stars, on va dire, de l'athlète ou...
Les stars de l'athlète qui finissent épuisés à la fin de leur course, c'est impressionnant de voir qu'ils peuvent souffrir comme nous.
T'as un nom,
sauf
par exemple.
Que ça ne se voit pas.
Okay. Il y en a, on les voit s'écraser par terre.
J'ai un trou de mémoire, bien sûr.
Encore
Non.
Français.
Non, Félix, une Américaine. Alison Félix.
Méga star, oui. Alison Félix.
Alison Félix, à la fin de son 400 mètres, donc c'était sa dernière année.
Ouais.
Ça devait être dans ses dernières courses, parce qu'après, elle a arrêté sa carrière. Elle était épuisée à la fin de son 400 mètres.
D'accord.
Et la voir, elle, épuisée, ça a compense.
Ça t'a marqué du coup.
Ça m'a marqué parce que ouais. toutes les autres, je me suis dit non, ils arrivent, ils sont tellement frais, ils sont tellement entraînés.
Ils ne transpirent pas en
ils
plus.
Ils transpirent pas, rien. Et en fait, elle était épuisée, il a fallu plusieurs minutes pour se remettre. Et ça, c'est à l'abri des caméras parce que la caméra ne la filme pas à ce moment-là.
Mais parfois, on les voit aussi se mettre par terre aussi par.
Oui, il y en a qui
sont
oui, devant les caméras, des fois ils le font. Ouais.
Oui, mais parce qu'en fait, il y a aussi l'émotion qui fait que.
Oui, oui.
Et il y a effectivement la pénibilité, mais c'est pas vraiment ça pour eux, c'est un plaisir, une torture plaisir.
Enfin, disons que oui, à la fin d'un 400 mètres, c'est pas un plaisir. Les 50 derniers mètres, c'est pas un plaisir.
Même le début, c'est déjà pas un plaisir pour moi. Alors,
justement, toi, est-ce qu'il y a une perf sportive qui t'a marqué, que t'as vu en live dans un stade
Alors, il y a eu 3 records du monde.
Ah, t'as vu le record du monde.
Alors non, j'en ai raté 2.
T'étais où ? T'étais aux toilettes ou t'étais où ?
Tu t'occupais de quoi à ce moment-là ?
Non, il y en a un où honnêtement, je cherchais à manger parce que j'avais pas mangé depuis des heures.
C'est quel record du monde ?
Alors c'était sur du long, je crois que c'était le 3000 mètres steeple.
Ah, c'est bête, ça.
Celui-là, je l'ai raté. J'entendais les gens hurler et j'avais la crède. Je pouvais aller n'importe où, je pouvais rentrer n'importe où. Et j'étais un peu perdu dans les couloirs, mais je cherchais à manger parce que je commençais à défaillir. Voilà. Parce que mon travail de bénévole était fini, mais j'avais pas eu le temps de manger avec les bénévoles. Mais j'avais pas encore mangé avec le VIP qui arrivait après. Donc j'étais entre les deux et j'étais coincé. Et là, j'entendais les gens hurler, mais je ne pouvais pas aller voir. J'étais coincé.
Et c'est quoi l'autre du coup que tu as raté ?
Il y a eu un autre record du monde ce jour-là. Il y en a eu deux. Il y a eu une meilleure performance mondiale au meeting. C'était le mile, je crois. Et celle-là, je l'ai raté aussi.
Et t'en as vu ?
Alors laquelle tu as eu parce que du coup ?
Eh bien, je me souviens plus du troisième que j'ai vu. Je me souviens plus de ceux que j'ai pas vus.
Bah ouais,
mais il y avait 3 records du monde ce jour-là.
D'accord.
Ils ont fait tout le même jour.
Oui, le même meeting. C'est pour ça que ce jour-là, ce meeting, ça devait être 2023. Ou 2022.
Charletti
2022.
D'accord.
J'ai un doute parce que comme j'en ai fait plus, enfin, je les ai tous faits. Ces 4 dernières années.
Mais c'est beau, 3 records en.
Ah non, c'est exceptionnel.
En une journée, pas souvent,
ça n'arrive pas.
À part à Berlin, sinon.
Ça n'arrive pas. Berlin, c'est que le marathon. C'est que le marathon, Berlin.
Oui, mais c'est là où ils font tomber les records.
Voilà. Et mais sinon,
petit
podcast
sur le marathon, vous le savez.
Ah, je l'ai écouté.
Bon, alors pour conclure, on va revenir à ces petits gars.
Oui.
Au Frige.
On est à quelques mois des JOP, donc Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.
On compte les semaines maintenant.
Ça arrive vite.
Ouais.
Et donc tu vas.
3 mois et demi à peu près.
Tu vas donc être bénévole sur l'événement.
Alors oui, alors je me suis inscrit dès le départ, dès qu'on a pu être bénévole, je me suis inscrit.
Alors voilà, comment ça a été quoi le process ? C'est-à-dire qu'il y a disponible pour tout le monde entre guillemets un.
Alors nous, on est au même niveau que tout le monde. En fait, il y a pas de. Il y a aucun piston. En tout cas, nous, on n'a pas de piston.
Ok. Il y en aura certainement. On rentre sur Internet. On s'inscrit pour être bénévole.
On s'inscrit pour être bénévole. On remplit. Il y a des tests psychotechniques, psychologiques. Oui, ça dure vraiment longtemps.
Psychologique.
Ah ouais, vous.
Non, j'ai pas fait.
Ah non.
Non, il y a au moins 3/4 d'heure de questions, comme si on passait un entretien d'embauche pour une grosse société
mais
française.
Mais quel type de questions ils posent pour voir si quelqu'un les personnes
c'est
peuvent
des,
ou
c'est
pas.
Des tests psychotechniques. En fait, c'est pas vraiment. Il y a pas vraiment de but à la question. C'est pour voir si tu as toujours la même façon de penser entre le début et la fin.
Ah oui, ok, d'accord. Je vois.
En fait, c'est comme si on voulait
ton profil de personnalité.
Exactement. C'est ça. C'est comme si on voulait
rencontrer
d'assaut.
Alors, tu es quoi,
ENJ Alors, non, après, ça te donne un peu les spécialités où tu veux aller. Et tu peux leur dire, bah non, moi, ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux plutôt aller vers l'athlé, je veux faire ça. Donc, moi, j'ai mis tout ce qui était autre que l'athlé, j'ai dit non. Parce que,
mais ça ne tenterait pas quand même d'essayer de pourquoi pas aussi essayer de voir d'autres disciplines, d'être bénévole dans une autre discipline ?
J'aurais pu. Mais ça tombe un peu en même temps, donc quitte à
être
bénévole,
autant
être dans son sport. Tu as une valeur ajoutée aussi.
Tout à fait. Et est-ce que, juste une petite question, c'est justement comme tu disais, donc là, les choses que tu veux pas, etc. Donc, c'est-à-dire que c'est comme par exemple pour les universités, on fait son choix de où est-ce qu'on veut
on fait
un petit parcours sup sur le.
En tout cas, je suis pas sûr que beaucoup de gens aient eu plusieurs propositions, parce qu'il y a même beaucoup de gens qui n'ont pas eu de propositions. Plutôt dans ce sens-là. On te donne une proposition, tu prends, je pense.
Ok. Mais toi, tu n'as pas dit, par exemple, ok, donc moi, je serais intéressé pour cette partie, plus précisément peut-être ce poste ou ce truc-là.
Non, de mémoire, ça n'allait pas jusque-là.
D'accord.
On a fallu attendre leur proposition et en fonction de ce qu'ils proposaient, dire oui ou non.
Ok.
Si c'était non, après, le COJO pouvait refaire une proposition pour un autre poste.
Okay.
Voilà, c'est... Mais il y a eu beaucoup de tensions. Ça, ça s'est fait juste avant Noël 2023. Il y a eu beaucoup de tensions parce que beaucoup de gens n'ont pas eu de proposition. Ils ont bien attendu la fin en plus pour faire toutes leurs propositions. C'était vraiment la semaine avant les vacances. Donc tous les juges se sont contactés, enfin les bénévoles, parce que je parle pas des juges, hein, les juges c'est à part, c'est une nomination à part. Ouais, mais les bénévoles, beaucoup étaient surpris de ne pas avoir de proposition. Ou de... C'est un peu tendu la dernière semaine. Et puis un jour, il y a une proposition qui arrive. Donc moi j'ai eu pour le marathon, donc il y aura deux marathons
de JO, ouais.
Officiels JO, oui. Femmes. Homme d'abord et femme qui termine.
Oui, c'est la première année. Voilà. Ouais. Enfin, première année. C'est la première fois effectivement qu'on termine par
on
les
femmes.
On
met les femmes à l'honneur.
Ouais. Alors, j'aime pas qu'on dit mettre à l'honneur. Mais oui, effectivement, on finira par les femmes.
Leur quart d'heure de célébrité.
Il est pire que moi. Il est pire que moi.
Non, c'est. Ouais. Donc voilà, les hommes d'abord et les femmes le dimanche matin. Et dans la nuit de samedi à dimanche, il y aura le marathon pour tous.
Tout à fait.
Mais là, je suis pas au courant. Enfin, si je suis bénévole la nuit, je sais pas encore. On n'est pas encore à ce niveau de détail.
Moi, j'ai une question. Okay. Quand on est bénévole dans un sport depuis tellement d'années, et en plus à Paris, c'est un peu l'aboutissement d'avoir des JO chez soi, en fait.
C'est l'aboutissement, sauf que c'est pas le même système de sélection que d'habitude.
Oui, mais malgré tout, quand même, ça reste.
Voilà. Là, j'ai la chance que d'être pris pour le marathon, mais par contre, je suis pas pris pour l'athlétisme.
Peut-être pas encore.
C'est trop tard là.
Trop tard.
C'est trop tard. Donc j'ai acheté des billets, comme ça j'irai voir.
Okay. Bah, au moins, ce qu'il y a aussi ça, c'est que quand on est bénévole, on n'a pas, on peut bien évidemment assister, mais on a tellement de choses à faire qu'en fait on profite pas non plus du côté sportif. Donc c'est bien aussi d'être de temps en temps.
La plupart des bénévoles n'en voient même pas.
Parce que est-ce que récemment t'as été voir une compétition dans tant que pur spectateur ou pas vraiment en fait?
Ça m'arrive assez régulièrement même. Oui, parce que. Souvent, moi, mon travail de bénévole, il est en amont parce que j'organise le... Alors d'accord. Déjà, moi, c'est tout en amont pour la sélection des bénévoles et tout. Donc ça, c'est les semaines précédentes. Donc pendant 2-3 semaines, voilà, je sélectionne, je récupère les... Enfin, je ne suis pas tout seul, on est plusieurs à le faire. Il y a une petite base de données, on contacte, enfin voilà. On organise avant, on fait le joli mail de convocation. Et le jour J, je vérifie que tout le monde est bien là. Et une fois que tout le monde est à son poste, logiquement, je surveille que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, eh ben, je vais me réfugier en tribune.
D'accord.
Et je regarde.
Okay.
Alors, en général, je rate le début de la compétition.
Oui.
Mais j'ai au moins la dernière heure. Donc ça, c'est un petit avantage de mon poste.
Mais il y a
beaucoup de gens qui sont bénévoles qui ne voient pas du tout la compétition.
D'accord. Non.
Ils entendent.
Ce qui est bien aussi.
C'est
différent.
C'est pour ça, justement, que comme on le dit toujours, les bénévoles sont extrêmement méritants quand même sur les événements parce que c'est une passion et ils ne peuvent pas l'avoir. Et ou ils arrivent à la fin, ou ils arrivent trop tard, ou parce qu'il y a quelque chose qui est intervenu qu'ils doivent gérer à ce moment-là. Et voilà, encore une fois, je vais le redire, mais en tout cas, nous, c'est important pour nous, pour avoir travaillé dans le sport. Enfin, on continue à travailler dans le sport, mais pour avoir fait, les bénévoles, on ne peut que leur dire merci très sincèrement. Et
toi, du coup, en tant que passionné d'athlétisme, c'est quoi la compète que tu as envie de voir à Paris? Vraiment
Bah, les JO.
Pour
mais quelle discipline pas
Quelle discipline ouais. Moi j'ai une préférence pour le 400 mètres huées parce que c'est ma discipline de
cœur. Et tu verras du coup, tu seras dans les tribunes.
Eh bien, sauf erreur, j'ai pris
la finale du 400
mètres huées femme.
D'accord.
Parce que ça sera, à mon avis, la.
Parce que il a pris tellement de billets, c'est même plus.
Je peux très bien m'être trompé.
Il a tellement de billets, il a tellement de billets, il sait même plus ce qu'il a pris.
Non, j'en ai pas pris beaucoup.
Les hommes, mais du coup, il a pris les femmes.
J'en ai pas pris beaucoup parce que pour avoir les prix normaux, il fallait sauter sur des billets et parfois j'achetais sans savoir ce qu'il y avait.
Ah oui.
Est-ce qu'il y avait les packs aussi?
Voilà, les packs, j'ai pas pu acheter.
Non, bah on s'est tous fait. Ça a été compliqué les packs.
Ouais, les packs, j'ai abandonné. Par contre, après, il y a eu des nouvelles ventes.
Oui.
Par-ci, par-là, il y a eu des ventes. Oui. Donc là, moi, j'étais à 10h-10 devant l'ordinateur et je refresh. Exactement. Et j'ai réussi à avoir des... J'ai aussi acheté des places pour le comité. J'ai réussi à avoir des places à 24€ qu'on n'avait pas vues pendant les packs.
Oui.
J'ai acheté plusieurs places pour le comité qui seront distribuées à des juges ou des élus, enfin des personnes méritantes.
Oh,
on en a pas beaucoup. Ça, hein.
Oui, par contre, ça...
Mais
ça fait partie des récompenses.
Ouais.
Un restaurant aussi, ça fait aussi partie des récompenses. Autre que la table sur l'épaule en disant merci.
Oui,
donc, ils ne le savent pas encore, mais il y a des personnes qui sont sur une liste.
Maintenant, ils le sauront.
Ils vont peut-être le savoir bientôt, du coup.
La surprise est un peu cachée, du coup.
Voilà, il y a des.
Bon, faut le faire avant la diffusion du podcast, du coup. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas les noms. Et également, du coup, tu vas aussi t'occuper, il me semble, en tout cas, si je ne me trompe pas, bénévole. Du côté para.
Du côté para, voilà. En fait, là, je ne serai pas juge, oui. Je serai bénévole au Stade de France, pour les paras. Voilà, la petite frige.
Paralympique.
Pour les paralympiques, oui. Voilà, pour le para-athlétisme, plus précisément, oui. Au Stade de France. Là, je ne connais pas encore ma mission. Il y a juste marqué chronométrage dans la fiche de poste. Mais je ne sais pas du tout en quoi ça consiste. Parce que je ne suis pas...
C'est pas fait à la main, je crois, une fois.
Et puis, je serai pas... Là, ce n'est pas jugé. Là, c'est bénévole.
Ok. Moi, donc, je sais déjà de quelle couleur sont les pistes.
Oui, ça, on sait.
Moi, non. Moi, je parle secret.
Ça sera mauve.
C'est violet. Effectivement, parce que j'ai été le visiter il n'y a pas si longtemps. Et du coup, ils nous l'ont dit.
C'est un petit teaser pour un
podcast. Ah oui, ils l'ont dit parce qu'elle n'est pas encore faite.
Non, bah non, alors là, je ne raconte pas le chantier.
Oui, là, c'est pas fait. Hein.
Non, là, pour l'instant, elle est moche et verte.
Oui, elle n'a pas servi depuis une bonne dizaine d'années.
Hein. Ouais.
Donc, tu vas avoir deux mois, enfin, un mois et demi assez chargé, on va dire. Allez.
Et
un bel été, quoi. Allez.
Oui, parce que de toute façon, je pense que là, dans ces moments-là, tu comptes pas tes heures de sommeil et tu profites parce que
dans 100 ans, on reviendra au JO, on sera.
Oui, c'est tous les 100 ans. Donc,
ça va être. Faut pas compter ses heures et faut. Ouais. Après, la première semaine des JO, je serai spectateur. Enfin, j'ai pas d'autres billets hein, parce que j'ai pas pu acheter ailleurs d'autres. Mais il y aura des écrans géants, il y aura.
Oui, parce qu'il y a une grosse manifestation tout autour. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas dans les tribunes qu'on peut pas.
Oui,
Il y a le village, il y a des endroits.
Il y a le village à la Villette.
Exactement. On peut aller partout. Il y aura. Paris va être en feu. Enfin, en feu.
J'espère pas.
Pardon. C'est une expression. En feu d'adrénaline.
Oui, il y aura de l'enthousiasme, je pense.
Et justement, sur les événements aussi, le côté bénévole, il y a aussi ce côté très adrénaline. C'est pour ça que quand on dit on compte pas nos heures, c'est qu'en fait, à un moment, de toute façon, on le voit même plus, qu'on est fatigué, on est tellement.
Non, on le voit pas. Par contre, après, tu le sais.
Alors justement.
Après, on le paye un peu.
Ouais.
Après,
on pense à l'instant pour conclure ce podcast. Donc, du coup, la rentrée sportive, elle va être pendant les Jeux paralympiques.
Alors je pense qu'il y aura un petit décalage. Alors après nous la rentrée sportive
Non, je suis pas d'accord. Il y a 3 semaines entre les deux quand même.
Donc, c'est septembre.
Oui, c'est septembre, mais il se passe jamais rien en septembre.
Ah, d'accord.
Non,
d'accord.
En septembre, il y a la rentrée dans les clubs. Les adhérents reviennent dans les clubs pour se réentraîner. D'accord. Mais il n'y a pas de compétition avant octobre.
Donc il n'y aura pas trop de chevauchement.
Non, parce qu'en fait, tu ne peux pas faire une compétition à quelqu'un qui vient de rentrer de vacances et qui connaît à peine son entraîneur.
Non, ça, c'est sûr.
Mais par contre, toi, tu vas enchaîner vraiment les paralympiques et la rentrée sportive.
Oui. Nous, en fait, au comité, vu qu'on travaille en amont, ça va être en même temps.
Ouais.
Après, notre travail aussi, c'est d'anticiper. Hein.
Bah, tu es déjà prêt, du coup, là, non ?
C'est un mot qui est difficile d'anticiper.
Et c'est quand l'élection, du coup, la prochaine épreuve
Au niveau du comité, ça doit être octobre 2024.
Okay.
C'est 4 ans.
Oui, fin de l'Olympiade. Hein.
Mais après...
relativement tôt, octobre. Mais non, mais est-ce qu'il faut les faire avant les présidences ? Parce que là, il y a aussi
Exactement. En fait, c'est par crescendo. C'est d'abord comité, et ensuite, il y aura la Ligue, doit être début novembre. Et la fédération, c'est novembre ou décembre.
Bah, donc, décembre ou janvier pour certaines fédérations qui nous font des petits teases. Mais effectivement, comme on vous dit vraiment, il y a vraiment des strates à respecter. Et c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre les structures.
Oui.
Donc, comme le comité, effectivement, les ligues et les fédérations. Fédération, vous avez déjà fait un podcast. Ligue, on vous a pas encore fait, mais du coup, maintenant, vous comprenez bien, ils sont au milieu. À peu près la même chose. Mais effectivement, c'est important de savoir qu'il y a vraiment un travail qui est quand même fait, un bon travail de longue haleine. Et voilà, que tout ça, ça s'imbrique en tout cas pour faire du sport.
Ça fait 100 ans, donc c'est quand même plutôt bien.
Ça fait 100 ans.
Tout le monde, pas tous, mais le comité de Paris a plus que 50 ans. À 53, 54 ans.
Ah, j'ai cru que tu m'as dit 100 ans.
Non, mais il y a certaines fédérations qui ont une bonne centaine d'années.
Bien sûr.
Et donc, en fait, chacun sait bien à quelle place il est. Oui, ça s'imbrique plutôt bien quand même.
Bah, en tout cas, c'est sûr que c'est un... Moi, la question que je me posais, c'est... je vais la poser comme ça, du coup, dans le podcast. Mais nous, on a un système assez particulier, en fait, en France, sur l'organisation, justement, du sport. Justement, par toutes ces strates que l'on peut avoir. Le côté très fédéral dans une nation non fédérale. D'ailleurs, donc c'est assez particulier d'avoir ce type de système.
C'est
comment
vrai.
C'est à peu près dans les... est-ce que toi, est-ce que t'as vu justement sur d'autres
pays,
même en peut-être en Europe, parce qu'on sait qu'il y a des fédérations internationales, des fédérations nationales partout, mais...
Alors, comment ça fonctionne ailleurs ? Pas trop. Nous, on a un partenariat avec Bruxelles, parce que ça fait plus que 40 ans qu'il y a un match Bruxelles-Paris ou Paris-Bruxelles chaque année, avec des jeunes de 11 à 14. Donc chaque année, soit on les reçoit, soit on va là-bas. Et eux, ils ont un fonctionnement différent. Mais on dit aussi comité de Bruxelles, mais eux, c'est...
Mais parfois, leur comité, c'est un peu leur fédération. Enfin, y a...
C'est un peu différent, mais il y a quand même pas mal de ressemblances. Hein, quand même.
Bah alors, mais, avec la Belgique, ça ne m'étonnerait pas trop, mais...
Ailleurs, en Europe, je n'ai aucune idée.
Ouais.
Je pense qu'il on le creuse un jour.
Non, ouais. Parce que c'est vraiment très particulier quand on découvre, justement, bah, comme là, c'est ce qu'on essaie de vous faire, en fait, vous faire découvrir vraiment bah, voilà, que tout le monde connaît les fédérations en tant que telles, mais déjà, même à l'intérieur d'une fédération, ce n'est pas ce qu'on peut imaginer, déjà. Étant donné qu'il y a cette part, justement, salariale, cette part élue, cette part DTN, enfin oui. Toute la DTN,
cadre d'État,
pardon. Et effectivement qu'il y a aussi d'autres personnes qui a, enfin voilà, les comités, les clubs, comités, ligues, etc. C'est un quand on dézoome et qu'on le regarde de l'extérieur, on se dit waouh, mais en fait le temps d'arriver à la fédération, il y a quand même quelque chose.
Ah oui.
D'où le fait que quand les licenciés appellent directement la fédération, là on se dit, il y a quand même des, il y a des stratégies.
Ça arrive dans certains sports.
Ça arrive beaucoup dans les plus petits sports.
Oui,
d'accord.
Après, je suis pas sûr que là, il y en ait peut-être qui appellent directement la fédération d'athlètes, mais
non, parce que tu saurais pas qui contacter.
Puis en plus, les strates sont tellement bien définies que du coup, il y a pas cette.
Il y a des missions, chacun a sa mission, même au niveau de la fédération. Il y a des vice-présidences pour telle mission. Enfin voilà, il y a le sport de haut niveau, il y a les clubs, il y a voilà.
On va dire que l'athlète est plutôt bien géré, en tout cas où ça fonctionne. Où on fait tout pour que ça fonctionne.
Voilà, parce que ça fonctionne comme d'habitude. Les médailles, enfin voilà, est-ce que ça fonctionne ? On verra. Hein.
Mais en tout cas, vous avez l'air d'être relativement cohérent.
C'est cohérent. Voilà. Oui, même au niveau entre la Fédé, entre la Ligue et le département, c'est plutôt cohérent. Après, d'un département à un autre, entre la ville ou la Creuse, par exemple, c'est totalement différent.
Après, c'est vrai que quand on prend Paris, c'est privilège de Paris aussi d'avoir...
Alors, privilège, oui et non. Hein, parce que, par exemple, dans des départements en France, ils ont plus de stades que nous à Paris. Nous, il y a des jolis stades à Paris, mais on peut pas organiser une seule compétition à Paris. Bon, les gens le savent pas, mais on...
Alors, attendez.
Tu as le stade
Charletti.
On va
faire un petit point sur cette partie.
Tu as le stade Charletti.
Oui, mais il n'y a pas que Charletti.
Eh bien, si. En fait, il n'y a que Charletti où on peut organiser une compétition. Et encore... À Charletti, on n'a pas le droit de lancer. Ça fait 2 ans qu'il y a eu du marteau parce qu'ils allaient changer la pelouse juste derrière. Mais c'était un stade de foot également.
Pour ne pas détruire les autres résidences.
On peut pas marcher sur la pelouse, on ne peut pas lancer sur la pelouse. L'année dernière, ça a été fait parce qu'ils allaient changer la pelouse pendant le mois d'août. Oui. Donc, on a pu. Mais sinon, non. Donc, nous, compliqué nos compétitions, on organise des compétitions jeunes.
Il y a Boulogne aussi...
Il y a des stades à droite à gauche, mais...
Non, mais parce qu'il y a un gros truc... Pourquoi j'ai pas le nom, là ?
Il y a un stade sur l'hippodrome, aussi, dans le bois de Boulogne. Oui. Mais on peut pas organiser de compétition dessus.
Ah, parce que c'est vrai. Du coup, effectivement... Alors, tout ce qui est course, ça va, normalement, pour les stades ?
Oui, mais on peut pas organiser une compétition avec que de la course.
Voilà. Mais par contre, tout ce qui va être javelot, enfin, lancer de poids, enfin, tout ce qui va, du coup... peut en tout cas faire du mal un petit peu à ces pelouses pour le foot.
Vu qu'il n'y a plus de pelouse.
C'est
que du synthétique.
Exact.
Donc on ne peut pas lancer. Donc nous, on va...
Juste de changer le synthétique après. Hein.
Non mais légalement, tu ne peux pas, mesurer un saut, un lancer.
Ah oui, donc du coup, c'est
compliqué. Donc en fait, nous, on organise des compétitions jeunes. Et dès qu'on a passé cadet, eh bien, on va en province, enfin, dans le 92 ou dans le 94, on a quand même des bons partenariats avec les comités autres.
Dans l'Est, parce que le Rhin, c'est dans l'Ligue, de France.
Cet hiver a encore été un peu différent parce qu'il y a un problème, un gros problème avec la piste couverte d'Aubonne qui a été transformée, qui est en travaux pour accueillir les Américains. Donc tout était fermé. En tout cas, la piste n'était pas accessible. Donc on s'est retrouvés, nous, Parisiens, à aller courir à Reims. On a loué la salle de Reims avec le 77.
C'est dans la Ligue de France, si je ne me trompe pas.
C'est dans l'île de... c'est à Reims, c'est un autre...
Il n'y a pas une ligue plus grande que... D'accord, okay.
Non,
d'accord.
C'est une autre ligue. Il y avait pas mal de trajets.
Reims.
Il y a d'autres sports où Reins est en Ligue de France. Peut-être pas en athlée,
En athlée, on n'est que 8 départements.
D'accord.
Mais Reims, non, c'est autre. Après, il y avait des compétitions à Nogent-sur-Oise, à Val-de-Reuil, dans l'Eure. Ouais. Donc, non, il a fallu déménager.
Hey, donc, c'est pas si simple malgré tout pour déjà trouver une bonne date et effectivement trouver un lieu pour pouvoir location, organiser ces compétitions. Quoi.
Et l'été, donc, nos compétitions, on les organise dans le 94, dans le 92, avec, en partenariat avec d'autres départements. On cumule, en fait, on joint nos organisations pour que ça soit plus simple.
Et faire une pierre, enfin, que...
Oui, qu'il y ait du monde sur la piste et qu'on puisse courir, parce que nous, on ne peut pas.
Ah, je ne savais pas du tout.
Et voilà, capitale de la France. Et voilà.
Et ben partez tous de la capitale de la France, du coup, si vous voulez courir.
Donc là, il y a des travaux qui ont été faits sur un stade qu'on va tout miser dessus.
Qui est
qui est dans le bois de Vincennes.
Okay.
Le stade Pershing, historiquement. Stade Pershing, il a une valeur historique... qui était plus gros que le Stade de France avant, il y a, dans les années 1910, si je ne me trompe pas. Le Stade Pershing était énorme.
Ah ouais ?
Alice Mia. Il faudra faire un podcast sur Alice Mia.
C'était l'un des premiers construits ?
Oui, c'était un des premiers stades.
D'accord.
Oui, il était plus gros que le Stade de France.
Okay. Ah ouais ? Tu savais toi ?
Non.
Ah bah, faudra, vous avez un sujet de podcast.
Très bien.
Et donc, voilà, nous, on mise... Enfin, la mairie de Paris a fait des travaux sur ce stade-là, il a été refait. Donc maintenant, il faut acheter du matériel, il faut qu'on puisse organiser des compétitions là-dessus, sur ce stade tout neuf.
Ah, bah ça, au moins, donc, c'est déjà une bonne nouvelle en tout cas.
Plutôt 2025, je pense. 2024, ouais, c'est trop tard.
Ça va arriver vite.
2024,
c'est... Ouais. Ok. Super, en tout cas, super intéressant.
Jean-Noël, merci beaucoup pour cette prestation, on va dire. J'allais dire prestation, parce que vous êtes athlète, donc à la base.
Tout à fait, mais non, mais vraiment très très intéressant et c'est ouais. bien justement d'avoir ce regard, surtout que toi du coup tu es impliqué autant dans une institution qu'il y a ton côté bénévole et on peut effectivement voir dans tous les cas que l'athlète n'aura jamais quitté ta vie, en tout cas jusqu'à présent.
Eh ben non, depuis mes 11 ans.
Voilà, donc, mais c'est quand même, enfin moi je trouve ça très beau, c'est-à-dire que tu as plaisir du coup à faire tout ça et on voit justement que l'athlète en tout cas te tient à cœur par justement tout ce temps que tu dédies en tout cas à cette, à cette discipline. Et donc du coup c'est très agréable d'avoir pu échanger avec toi quand on a des passionnés, c'est toujours très intéressant avec plein d'anecdotes en plus. Mais je retiendrai aussi le coup des médailles bien évidemment.
Et le stade Pershing aussi.
Et le stade Pershing. Mais je vais aller regarder parce que lui j'ai du mal à le situer là sur le principe. Mais, mais oui, bah, on est toujours très contents quand on apprend des choses en tout cas. Donc,
avec plaisir.
Donc merci beaucoup.
Et donc on te souhaite forcément des bons Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.
Merci, moi je vous souhaite d'être journaliste aux Jeux Olympiques et Paralympiques.
Voilà, bah, l'appel est lancé. Merci beaucoup en tout cas et on vous retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.
Salut.
Merci, au revoir.